Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Aujourd'hui, je suis avec Tibur Sauget, qui est, je peux le dire, un de mes auteurs préférés. Dès qu'il sort un album, je me précipite dessus, d'autant plus quand c'est un album western, comme ce magnifique projet qui s'intitule Go West Young Man, publié par les éditions Grand Angle, qui vient, je crois, juste de sortir, ou enfin, il y a très, très peu de temps. Bonjour Tibur, je suis vraiment très heureux de t'avoir sous la main, en tout cas sous la voix. Première question qui ouvre un peu toutes les bulles d'histoire, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es ?
Qui je suis ? Alors j'habite déjà dans la région d'Angoulême, je fais de la bande dessinée depuis 1992, c'était mon premier tome sur la série Gorn. Ensuite j'ai bossé chez pas mal d'éditeurs pour pas mal de séries, soit en tant que scénariste, soit en tant que dessinateur scénariste, soit en tant que seulement dessinateur. J'ai travaillé avec Anne Robillard, qui est romancière québécoise. J'ai travaillé avec Vincent Pérez, qui est acteur-réalisateur. J'ai travaillé après avec de nombreux auteurs en tant que scénariste. Avant ça, avant 92, pendant 3 ans, j'ai bossé dans le dessin animé sur les Tortues Ninja, Lucky Luke ou Denver le Dinosaure. Donc ça m'a parlé aux vieux gamins. Et voilà, et puis je suis passionné de western, je suis tireur sportif, membre de la FFTIR et initiateur de tir. Et voilà, et j'aime bien restaurer les meubles et la bonne bouffe.
Alors, comment t'es venu cette passion pour le western ? Parce que tu parlais de tir sportif aussi. Il me semble aussi que tu fais du tir que moi je qualifierais de western. J'ai vu des photos de toi avec des armes anciennes, en tout cas qui ont l'air anciennes.
Ce qu'on appelle du cowboy action shooting, où effectivement, où on se met en tenue western et on fait du tir un peu ludique, un peu rigolo, en essayant quand même de rester dans les règles de prudence. Il y a une actualité un peu navrante en ce moment. Et oui, voilà, mais c'est assez passionnant. Les armes anciennes, le tir, ça fait travailler la concentration, le respect de soi, le respect des autres, et puis l'amour du sport.
Alors, comment t'es venu cette passion pour le western ? Parce que je crois que c'est ton quatrième album western.
Oui, en tant que dessinateur, j'ai fait la série La Piste des Ondes, 3 tomes. Ensuite, Buffalo Runner, 4. Un cinquième avec Ghost Kid. Et celui-ci, ça fait le 6e. Et on peut aussi compter Le Canoë Bay avec Patrick Prugne. Oui, donc ça fait pas mal. C'est depuis mon enfance, en fait. Hein. C'est vrai que j'étais élevé avec mon père qui était éleveur de chevaux et moniteur, donc j'étais élevé au milieu des chevaux, il y avait déjà ce côté un peu la monte, dès que je voyais ensuite les John Wayne à la télé, forcément, ça donnait aussi envie, et puis après les bandes dessinées, il y avait les Comanches d'Hermann, il y avait les Tuniques Bleues, Lucky Luke, les Blueberry, c'était du rêve, il n'y avait pas vraiment aussi l'influence de la télé ou des ordis comme maintenant. Voilà, c'est ce côté l'amour des grands espaces, être libre avec son cheval et sa Winchester, et puis rien devant soi, pas de barrière, rien.
Alors, ce projet Go West Young Man, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots cet album qui ressemble à aucun autre album ?
C'était un pari un peu barjot. En fait, je m'étais cassé 2 côtes. Ça arrivait un accident bête. Et puis, comme j'étais un peu bloqué, enfin plutôt bloqué, parce que ça fait vraiment mal, hein, ça fait mal de chien, ces cochonneries. Et je me suis dit, voilà, j'aurais pu mourir, me perforer un truc, y rester, enfin bon, on ne sait jamais quoi. Et puis se dire, c'est dommage que je n'ai pas pu collaborer avec des auteurs dont j'admire le travail, des dessinateurs vraiment, vraiment de haut niveau en western. Et puis ça restera du domaine du rêve, parce que je ne pourrais jamais leur écrire une série ou même un one-shot, quoi. Ils sont tous déjà pris. Et puis après tout, tiens, pourquoi j'essaierai pas ? Le premier confinement tombe là-dessus, donc tout le monde est un peu coincé chez lui. Et là, je me dis, pourquoi j'essaierai pas de les contacter et de leur proposer en fait d'écrire une grande histoire, mais où ils dessineraient eux chacun un petit chapitre. Et du coup, ils auraient peut-être des fois entre 3 et 6 pages à faire, ce serait pas trop difficile pour eux, ça leur prendrait pas trop de temps. Voilà, j'écris, je commence, je leur propose le truc et je me rajoute un petit challenge. Je leur demande même éventuellement s'il n'y a pas un passage de la conquête de l'Ouest.
Donc chacun, il y a, je crois qu'il y a 17 auteurs en tout qui ont dessiné chacun une histoire ou quelquefois il y a des histoires à quatre mains. Quel est le fil conducteur? Parce que quand on lit l'album, on est à la fois, j'allais dire, embarqué dans chaque mini-histoire. Mais quand on a fini l'album, on se rend compte en fait que ça raconte aussi une histoire complète, une histoire en 120 pages, quoi. C'est pas un enfilage d'histoires, c'est un récit complet.
Oui, c'est en fait, on va dire, c'est la destinée d'une montre anglaise, une montre luxueuse d'un officier anglais, qui va tomber en fait dans les mains indiennes et puis qui va de génération en génération, traverser 150 ans de l'histoire de la conquête de l'Ouest, en gros.
Alors, pourquoi tu as choisi une montre? Est-ce qu'il y a un symbole ou est-ce que c'est le hasard? Pourquoi une montre qui passe de main en main?
Disons qu'il fallait un objet usuel qui soit suffisamment luxueux pour aussi attirer un peu la convoitise. Au début, je m'étais dit un objet indien, pourquoi pas un tomahawk, une chose comme ça, mais ce serait seulement un objet de collectionneur. Et à l'époque, on n'est pas dans la collection. Une montre en or, elle a une valeur. Et à cette époque-là, maintenant, ça ferait beaucoup plus dérisoire. Mais je pense qu'au 19e siècle et fin 18e, ça a vraiment une grande, grande valeur. Donc, elle va attirer, on va dire, les convoitises. Et puis, il me fallait donc cet objet-là qui puisse circuler et qui soit aussi donc un objet venu déjà de l'ancien monde, du vieux monde, un objet manufacturé. Pour les Indiens, c'est quelque chose d'un petit peu étrange, étonnant, comme vouloir dominer le temps comme ça. Et puis pour les Blancs, donc ça ajoute au moins une valeur pécuniaire. Et c'était plus facile qu'une arme à feu ou une chose comme ça, puisque c'est pareil, je m'étais dit pourquoi pas un pistolet à silex, mais un pistolet à silex en 1916 au Mexique, on va pas vraiment trouver l'intérêt de la chose. Une montre, ça peut toujours être utile.
L'autre chose qui est intéressante, c'est comme tu disais, on parcourt un peu plus de 150 ans d'histoire américaine. Donc on a à la fois l'histoire de cette montre, l'histoire de tous les personnages dont on va reparler, mais c'est aussi un peu un panorama d'histoire américaine. Comment tu as choisi les épisodes, sachant que ce n'est pas forcément des grands épisodes très connus, c'est des épisodes très, très humains, presque de la micro-histoire.
Oui, c'est ça en fait. Je voulais qu'on voit quand même les grandes périodes, les grands bouleversements de la conquête américaine de la fin 18e jusqu'à les années 1920, à peu près 1930, mais par le petit bout de la lorgnette, avec justement ce côté petite histoire sombre, petite histoire sordide de la destinée, de la condition humaine.
Ce qui fait aussi le charme de cette série, c'est qu'on retrouve tous les codes, tous les passages obligés du western. On a le chasseur de primes, l'Indien sauvage, l'Indien gentil, les enfants enlevés, les bandits de grand chemin, les prostituées, les saloons. J'imagine que ça fait partie du plaisir de ce genre de projet, de manipuler tous ces archétypes.
Oui, parce que si j'avais pris, on va dire, la famille Ingalls et puis tous leurs congénères, c'est-à-dire l'Américain de base, le colon de base de l'époque, c'est un paysan, c'est surtout, il y a quelques commerçants, mais c'est surtout des gens qui vont travailler la terre. On ne va pas vraiment être dans la grande aventure. Une fois qu'on aura traité le fait que Charles Ingalls va aller traire les vaches, ensuite il va avoir son champ qui va être mangé par les criquets ou il va épuiser de l'eau, on ne va pas tenir 14 histoires. Donc il faut à la fois que ce soit du côté croustillant, quoi, un petit peu des hors-la-loi, de la guerre de sécession, les guerres indiennes, quand même, qui sont les grands événements historiques de ces périodes-là. Mais après, il fallait montrer ça d'un point de vue, on va dire, aventure humaine, c'est-à-dire que ce soit toujours une petite poignée d'individus qui vivent la grande histoire.
Comment tu as convaincu tous ces auteurs qui sont, il faut le dire pour ceux qui ne connaissent pas forcément bien la bande dessinée, qui sont tous des stars de la BD, c'est vraiment des très très grands dessinateurs. Comment tu les as convaincus, sachant que c'est aussi des gens qui ont des tas de projets, souvent même un gros projet en route, et ils ont accepté de prendre un peu de leur temps pour se dessiner ces petites histoires qui sont pas dessinées par-dessus la jambe, hein, qui sont vraiment bien dessinées comme ils savent le faire.
C'était un peu varié, il y a eu tout. Il y en a certains, je leur ai promis un rein. D'autres, j'ai kidnappé leurs enfants. Et d'autres, je les ai menacés. Donc, non. En fait, c'est... Je ne sais pas, je les ai convaincus parce que cette idée, je pense, cette idée qui étonnamment était d'une simplicité, est une évidence de se dire, tiens, pourquoi tous ces grands auteurs westerns ne feraient pas un album en commun, un album ensemble? Ça n'a jamais été fait. Et du coup, ils se sont un petit peu dit, ben oui, c'est vrai que l'idée n'est pas con, pourquoi on ne ferait pas ça? D'emblée, j'ai très vite écrit ces petites histoires pour leur soumettre, pour qu'ils voient éventuellement, pour qu'ils arrivent à se mettre dans l'ambiance, dans l'esprit, l'état d'esprit que je voulais donner de ce livre. Et après, s'ils ont suivi, c'est sûrement par l'immensité, ils ont été séduits par l'immensité de mon talent d'écriture, ou alors, comme je disais, par le fait, par mes lettres de menace de mort, peut-être, je sais pas.
Non, mais sur les qualités d'écriture, je trouve qu'on retrouve dans Go West Young Man la qualité qu'il y a dans les séries eerie, creepy, où on saute d'une histoire à l'autre avec des ambiances très différentes, mais avec un fil conducteur. Ça aussi, ça fait partie du plaisir de la lecture, de retrouver des histoires courtes, qui ne soient pas non plus des gags.
Voilà, mais c'est-à-dire qu'il ne fallait pas tomber dans le gag, et il fallait aussi quand même qu'à chaque fois, j'ai un sujet différent, une époque différente, et puis une chute différente. Tu vois, effectivement, et il y a certaines histoires qui ont plus d'émotions, certaines histoires qui sont un peu plus sentimentales, d'autres qui sont très noires, très sombres, d'autres qui sont plutôt très, très, très cyniques, d'autres plutôt désabusées. Enfin, vraiment, c'était. J'avais ce panel comme ça, là, et pour moi, c'est comme si j'avais fait, en fait, un synopsis d'album général, tu vois, voire même de série pour certains, mais qu'il fallait que je fasse en condensé. Allez, là j'ai 3 planches, ou là j'en ai 8, pour raconter mon histoire. Comment aller à l'essentiel, tout en essayant quand même à chaque fois de poser d'emblée une ambiance. Il fallait qu'à la première page, on est dans l'ambiance, à la deuxième, on est avec le personnage, et ensuite, éventuellement, donc on a la chute, le dénouement et la chute, bien sûr, à la troisième ou quatrième planche. C'était vraiment, vraiment passionnant à faire, et ça, moi qui des fois avais une chute plutôt plus évasive, plus brumeuse pour certaines histoires. Hervé Richer, le directeur de collection, tenait absolument, lui c'est un gagman, tenait absolument à ce qu'on ait le petit basculement sur la fin, le petit truc, voilà, toujours détonnant. Je voulais pas que ça devienne un truc, donc on a pas mal discuté là-dessus, mais lui insistait vraiment pour l'efficacité de l'histoire, qu'à chaque fois, sur la fin, des fois, je retravaille un petit peu ma copie. C'était plutôt, voilà, je trouve que c'était une bonne chose.
Comment ça s'est passé? C'est toi qui disais à chaque dessinateur, tu vas être 2 planches, 3 planches, 6 planches. Ou est-ce que c'est lui qui te demandait, non, je peux t'en faire que 2, moi, il m'en faut 8. Comment ça a marché, ça?
Alors, c'était plutôt effectivement ça. En général, bon, comme ils sont toujours très pris, ils me disaient, écoute, je pourrais t'en dessiner que 2. Et puis, on voyait ensuite ensemble avec ce que j'avais écrit et proposé dans l'histoire, qui tenait vraiment à l'histoire et à la respecter, et que ça pouvait tenir plus facilement en 4 ou 5 qu'en 2 ou 3. Donc, ils ont joué le jeu. Et puis, on a un petit peu, enfin, plutôt pas mal joué sur la rallonge de pages. Du coup, on avait même pensé avoir d'autres auteurs en supplément, mais on aurait fait un bouquin qui aurait été trop gros, trop important. Au niveau financier, c'était quand même un sacré coup, parce que là, disons qu'on a, on a des pointures de bande dessinée qui vont pas accepter de dessiner pour 3 cacahuètes. Donc, il fallait quand même payer tout le monde décemment. Ça aussi, Christian Rossi avait demandé à ce que tous les auteurs, les plus jeunes, les plus vieux, soient tous payés de la même façon. Donc, c'était plutôt bien, quoi, que ce soit vraiment quelque chose d'égalitaire jusqu'au bout.
Et comment l'éditeur a trouvé, qu'est-ce qu'il a pensé l'éditeur quand tu l'as envoyé le projet? Parce que je pense que c'est un casse-tête pour un éditeur. Il va y avoir 15 auteurs, pas le même nombre de planches. Ça doit être. Il a été facile à convaincre, Hervé?
Alors en fait, je l'ai appelé, parce qu'on était vraiment sur la fin ou le bouclage de mon western précédent, le Ghost Kid. Et on s'est très bien entendu vraiment sur niveau travail, sur tout. Et puis je l'appelle pour lui soumettre l'idée. Je lui dis, écoute, tu sais, j'aimerais bien réunir des gens comme Rossi, Herman, François Bouc, Ralph Meyer, enfin bon, tous ces gens que j'admire, sur un livre. Et puis il y a eu un peu un silence. Et C'est pas possible. C'est pas possible. On se laisse un peu, on y raccroche là-dessus, et puis il me rappelle, je sais plus, c'est le lendemain ou même le soir même, pour me dire, écoute, non, c'est ton idée, c'est Barjo, mais écoute, si tu arrives à voir les auteurs, c'est juste génial, on te suit. Et voilà, c'est open, on te suit. Donc j'ai eu un soutien total de l'éditeur, même ensuite avec une promotion énorme, grosse mise en place, enfin vraiment. Très belle maquette, un beau rendu du livre, c'est là l'éditeur suit le truc quoi.
Ouais, le livre est très beau et j'ai vu aussi moi la version luxe. C'est vraiment un magnifique cadeau de Noël quoi. Il faut pas se priver de ça quoi. Le western a quasiment disparu des écrans de cinéma. C'est un genre qui est vraiment très très moribond. Pourtant en bande dessinée, c'est un genre qui se développe, qui fait floresse. Chaque année, il y a au moins une 15 ou 20, une trentaine d'albums western qui sortent chez quasiment tous les éditeurs. Comment tu expliques cette permanence du western en bande dessinée et plus du tout au cinéma, en dehors de l'aspect économique peut-être ?
Il y a un nom magique depuis 5-6 ans, c'est Undertaker. Moi, j'ai mon Buffalo Runner qui sort. Je suis à Paris, c'est 15 jours après le massacre à Charlie, bon, c'est un petit peu, comment dire, c'est la morosité, c'est la tristesse un petit peu partout. Et puis fin janvier, 15 jours après, il y a le festival d'Angoulême qui se fait. Et là, en avant-première, il y a l'Undertaker qui sort avec Ralph Meyer et d'Horizon. Et là, d'emblée, c'est le carton. C'est vraiment le truc, ça trouve le public tout de suite. Les gens, ils attendaient ça. En fait, il y avait un public latent qui était toujours là. Moi, déjà en 2001, quand je veux sortir à tout prix ma piste des ombres, on me dit « Bon, écoute, ouais, mais tu sais, le western, à part Lucky Luke et Durango, voilà, il n'y a plus rien, quoi, ça ne se fait plus. » Alors, je savais, moi, qu'il y avait des lecteurs. La preuve, j'en étais un. Et puis, donc, ce Undertaker ravive un petit peu les souvenirs chez les fans et les passionnés de western, et on se rend compte chez les éditeurs qu'effectivement on peut atteindre ou dépasser les 100 000 ou je ne sais combien avec du bon western. Et là, ben, forcément, tous les éditeurs ensuite se mettent à suivre un petit peu l'exemple d'Undertaker. Moi, pour moi, la résurrection du western depuis quelques années en franco-belge, ça vient d'Undertaker. Donc moi, ça ne m'avait pas empêché d'en faire avant et d'en faire pendant et d'en faire après. Je pense que oui, sûrement peut-être la beauté du dessin de Ralph, l'efficacité des dessins du scénariste ont lancé le truc. C'est tant mieux. Après, il y a aussi sûrement, il y a un peu ce côté retour à la terre, le monde sauvage, la liberté. On est loin des grands ensembles urbains, on est loin du béton, du goudron et de la pollution. On nous parle de grands espaces, de feux de camp, tu vois, de ce côté vraiment, cette liberté de l'individu. Je pense que les gens ont peur de perdre.
Oui, puis c'est quand même un terrain de jeu qui est extrêmement romanesque. Là, les aventures sont infinies.
Bien sûr. Bien sûr. Alors, après, c'est toujours, on va dire, c'est un petit peu l'enrobage, parce qu'on peut placer des histoires comme ça au XIVe siècle, dans le haut Moyen-Âge, dans l'Antiquité. En fait, je vais dire, le contexte après, c'est un peu l'enrobage. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'histoire humaine. Et l'histoire humaine, où qu'on la place. Je suis sûr qu'on peut faire un western qui se passe en banlieue parisienne, parce qu'on va trouver des personnages truculents, croustillants, on va trouver des méchants, on va trouver du drame humain. On aura tout. Hein.
Alors, c'est quoi l'essence du western ? Je ne pensais pas poser cette question-là, mais là, tu parlais d'un western en banlieue parisienne. C'est quoi ? Qu'est-ce qui ferait l'essence d'un western en banlieue parisienne ? Comment on pourrait se retrouver dans un western dans le 93 ou dans le 92?
Eh ben, on va prendre des confrontations d'individus venant issus de milieux sociaux différents. Et comme à l'époque, on a le colon qui vient de la vieille Europe, qui débarque, qui veut faire fortune. Il est confronté aux Indiens qui sont là et qui veulent garder et préserver leur liberté, leur terre. On va trouver la misère, la pauvreté, donc la recherche de la survie, juste survivre, comment gagner sa vie et survivre. Et ça, qu'on soit en banlieue, qu'on soit partout ou en province comme moi, c'est toujours ça. On va trouver des confrontations, on va dire, entre des gentils et des méchants, parce qu'il y a toujours des magouilleurs qui veulent marcher sur les autres et puis d'autres qui veulent essayer de tendre la main aux autres. Donc, en fait, pour moi, on va trouver de la violence, on va trouver de l'amour, on va trouver du sentiment, des croyances. Ou que ce soit, pour moi, un western, on peut en faire un sur Mars, ou on peut en faire un, effectivement, en banlieue parisienne, ou à Lyon, ou en fin fond de la Charente. Après, qu'on mette un chapeau de cow-boy des Santiago ou pas, tu vois, ça importe peu, en fait.
Ah, c'est un peu plus des paysans, en tout cas.
Mais voilà.
Tu parlais de Lyon. Je conseille à ceux qui nous écoutent d'aller à Lyon au musée des Confluences, parce qu'il y a une exposition qui s'appelle « Sur la piste des Sioux », qui est une exposition absolument extraordinaire sur la construction de l'image des Indiens d'Amérique dans notre imaginaire européen. Donc ça commence quasiment au XVIe siècle jusqu'à nos jours. Et notamment le clou de cette exposition, c'est une collection totalement exceptionnelle d'habits et de parures indiennes qui ont été amenées en Europe dans les années 30 pour l'exposition universelle. Et un collectionneur les a retrouvés dans des caisses absolument intactes. Je ne sais pas si tu as vu cette exposition, mais les habits d'Indiens, les grandes coiffes avec les plumes, les tuniques brodées de perles, c'est un rêve de petit garçon qui a envie de jouer au cow-boy et aux Indiens. Ça, j'ai passé un moment là-dedans, fantastique.
J'ai vu des photos, j'ai pas pu y aller. Parce que moi je suis un sauvage et moi je me déplace, mieux je me porte en général. Mais j'ai vu sur internet des photos. Il y a beaucoup de justement d'objets et de tenues des tribus Sioux, je crois.
Oui, c'est des Sioux, tout à fait.
Voilà, qui était une des plus grandes nations, on va dire, amérindiennes, en importance et en termes de zone d'influence à une période. Et c'est vrai qu'ils ont un petit peu influencé aussi d'autres courants autour d'eux, quoi.
Oui, puis ils ont influencé l'image qu'on a nous-mêmes des Indiens. C'est-à-dire que pour nous, quand on demande aux gens « décris-moi un Indien », en général, ils décrivent un Sioux.
Et pas oui, mais ça, c'est Hollywood. Ouais. Effectivement, c'est Hollywood qui, après, même si ça se passe avec des Apaches, ils ont mis des coiffures de plumes avec des oiseaux qu'on ne trouvait pas forcément là. Enfin, bon, en fait,
et ça aussi, dans Go West Young Man, tu arrives, en tout cas les dessinateurs et toi, vous arrivez à jouer avec ces codes, mais sans non plus tomber à chaque fois dans la caricature. Vous êtes le plus proche possible de la réalité historique.
Oui, ben ça, c'était le but. Alors après, je pouvais faire confiance pour la première histoire. Effectivement, on a des Hurons, des Iroquois, les tribus des Grands Lacs. Là, Patrick Prugne, c'est un grand passionné et spécialiste de cette période-là. Donc, je savais qu'en lui confiant la première histoire, il n'allait pas se tromper. Pour les autres, ils ont toujours fait d'assez bonnes recherches. Moi, au niveau emplacement, lieu historique, conflit, là-dessus, j'essayais de ne pas mettre des âneries. Et ensuite, bon, c'était facile. Maintenant, avec Internet, c'est pour trouver aussi, pour faire les recherches en iconographie, c'est vrai que ça, c'est passionnant parce que c'est un monde ouvert, quoi. C'est une bibliothèque ouverte, on peut trouver de tout.
Bah, Tiburce, je te remercie de ce moment passé avec moi. Donc, je conseille évidemment à tout le monde de lire Go West Young Man, de se l'offrir à Noël et de l'offrir aux autres, parce que c'est un bonheur de lecture, un bonheur de dessin, enfin, c'est un bonheur de tout quasiment. Ça fait 112 pages, c'est au prix de 19,90 €. Et quand on voit la qualité de finition du livre, on se dit que c'est vraiment donné un prix pareil. Et c'est publié par les éditions Grand Angle. Je ne vais pas citer tous les auteurs parce qu'il y en a 15, mais moi il y en a évidemment que je chéris particulièrement. Il y a Félix Ménet qui a sorti une série chez Casterman Sauvage qui est très sauvage justement, mais en même temps qui est drôle. Voilà, il y a Christian Rossi qui est un pur génie, tu l'as dit. Il y a aussi Steve Cousor.
Une petite apparition. Une apparition un peu guest.
Et puis après, il y en a plein. Marini, Ménet, Patrick Prugne, Hugues Labiano, Benjamin Blasco Martinez, qui est l'auteur de la série Catamount, qui est pareil, un vrai, vrai, vrai beau monument du western. Donc voilà, plein d'auteurs, un livre magnifique.
Dominique Bertaille aussi, qui a fait vraiment, qui a fait des planches, tu as vu, en sépia, qui sont avec une lumière fantastique. Quoi. C'est vraiment...
Ouais, que des grands dessinateurs, et puis bah, comme je le disais, un excellent scénariste qui a tricoté cette histoire américaine. Voilà, je te remercie Tiburce et à bientôt.
Merci beaucoup.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Waouh. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.